D'accord, les frères? Donc de souvenir, celui qui avait demandé à Al-Wahshi de tuer Hind, c'est Ubaydullah ibn Adi. Mais à vérifier, Inch'Allah. On vérifiera, Inch'Allah, et on regardera, Inch'Allah. D'accord? Donc ensuite, on continue toujours ce hadith. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alayhi salatu wa salam, donc il dit, j'aurais bien voulu voir nos frères. Yani comme j'aurais bien voulu rencontrer nos frères. Allahumma ja'alni wa iyyakum minhum, qu'Allah azza wa jal qu'il nous fasse partie parmi les frères du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons nous ont dit, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la différence entre les compagnons et les frères, alors que les compagnons sont les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais ici les compagnons, akhassu min al-ikhwan, c'est encore plus spécifique. Ici le fait d'être compagnon, c'est pas donné à tout le monde. Le fait d'être compagnon, na'am, c'est parce qu'ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui. Donc ici, c'est yani, une petite partie de la communauté. Tu vois, un sahib, akhwa ziyada. Donc, le compagnon, c'est ton frère, mais c'est encore plus que ton frère. C'est encore plus que ton frère. Alors que c'est possible d'être frère sans être compagnon. C'est possible d'être frère sans avoir, c'est possible d'être le frère du prophète sans l'avoir rencontré. Mais ce n'est pas possible d'être son compagnon sans l'avoir rencontré. Donc, vous êtes encore, et allez dans le sens, entum ashabi, c'est pas pour les dénigrer. Bien au contraire. C'est-à-dire que vous êtes, et allez encore meilleur que eux. Ne vous plaignez pas, vous êtes meilleur que eux. Mais mes frères, ce sont ceux qui sont revenus après moi. Yu'minou nabi wa lam yarouni. Comme dans une version du hadith, ils ont cru en moi et ils ne m'ont jamais vu. Ils ont cru en moi et ils ne m'ont jamais vu. Et ensuite le cheikh dit Allahumma lakal hamd, Allahumma thabbitna ala thalik. Il invoque Allah Azza wa Jal pour faire partie de ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même qu'on ne l'a jamais vu. Ils croient aux messagers d'Allah alayhi wa sallam. Et ça c'est beau, le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certain d'une croyance véridique, tu es certain sans aucun doute. Sans aucun doute, alors que tu ne l'as jamais vu. Mais ils y croient fermement. Et là, les compagnons ont dit, mais comment tu vas les reconnaître? Wa anta lam tudrikhum, alors que tu ne les as jamais rencontrés. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de leur donner un exemple. L'exemple d'un homme qui possède des chevaux. Des chevaux, yani, rur. Yani, qu'ils ont le front, la tête blanche. Wa muhajjala, yani bayad fi arjuliha, yani du blanc sur leurs pattes. Et ces chevaux, ils sont avec des chevaux dohm. Yani dohm, tout noir. Yani sawadan laysa fiha ay ghurra. C'est dohm, le terme dohm en arabe, c'est le fait d'être tout noir sans aucun point. D'accord, ils sont tout noir. Est-ce que il va reconnaître ses chevaux des autres? Et là, ils diront, bien sûr. فَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ. Et mes frères viendront au jour de la résurrection, yani, la face blanche et les mains et les pieds blancs. Cela dû à la trace de leurs ablutions. De leurs ablutions, parce que à chaque fois que tu fais des ablutions, subhanallah, c'est de la lumière, c'est de la lumière, et tu reconnaîtras ces gens-là dans ce jour énorme, tu reconnaîtras ces gens-là, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les reconnaîtras par ces simates, par ces ces signes, par ces traces magnifiques qu'aucune autre communauté n'aura. Qu'aucune autre communauté n'aura. C'est pour cela qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous, compter parmi ces gens-là. Amin. Ensuite, donc il cite encore trois hadiths. Voilà, encore trois hadiths et ensuite le chapitre est terminé. Il dit وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وعن أبي مالك الأشعري وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Donc là il cite trois hadiths toujours dans les mérites des ablutions, d'accord. Donc le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Allah azza wa jal efface les péchés et élève en degré ?» Il dit « Naam ya Rasulallah ». Et ensuite il dit le fait de parfaire ses ablutions. Parfaire ses ablutions malgré al-makare, malgré les difficultés ou malgré les désagréments. Ensuite il dit « Multiplier les marches vers les mosquées » et y attendre après chaque prière accomplie la suivante. Yani, tu multiplies les marches de la mosquée et ensuite tu attends d'une prière à l'autre. Tu as fini la prière, tu attends la prière suivante. Et ensuite il dit, ذَلِكُمُ الرِّبَاطِ. Voilà ce que l'on appelle se consacrer totalement à Allah. Voilà ce que l'on appelle se consacrer totalement à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il cite le hadith de Abu Malik al-Ash'ari, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en fait c'est un long hadith, c'est un très long hadith, il cite juste une partie puisqu'il a déjà cité dans les chapitres précédents, la purification représente la moitié de la foi. At-tahur, shatr min al-iman, la purification représente la moitié de la foi. Et ensuite il cite le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il dit, toutes les fois que l'un d'entre vous fait ses ablutions avec le plus grand soin. Puis il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. N'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Aussitôt les huit portes du paradis lui sont ouvertes et il entre par celle qu'il veut. Et dans une version de Tirmidhi, il dit qu'il rajoute « Allahumma ja'alni min al-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin » Et ensuite qu'il dit « Wallah, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. » Donc c'est un hadith, toujours dans les chapitres de yani, des mérites des ablutions, d'accord yani, et ces hadiths, ils viennent, subhanallah, regardez ce que le cheikh dit, ces hadiths, ils sont venus, le cheikh, il les a cités, donc après le hadith, cité sur le cimetière. Et le cheikh, il revient, donc avant de passer à ces hadiths-là, il revient sur un point important par rapport au cimetière. Et il dit, on a parlé de la visite des cimetières. Et que la visite des cimetières, elle nous rappelle la mort et qu'elle nous rappelle l'au-delà. Il dit, mais il est important de savoir que la visite des cimetières n'a pas été autorisée pour les femmes. Et qu'il est interdit pour la femme de visiter les cimetières. Il dit, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit. Il a maudit qui ? Zairat al-Qubur. Il a maudit celle qui visite les tombes. Le cheikh, rahimallah, il dit, et ça, c'est une grande divergence entre les savants. Est-ce que, yani, l'interdiction de la femme pour les cimetières, yani, certains savants sont d'avis qui lui est autorisé, d'autres savants sont d'avis qui lui est interdit. Et d'autres, yani, expliquent le sujet de cette manière et, yani, d'une manière, et on, inshallah, on pourra un jour évoquer ce sujet. Ici, le cheikh, il dit, rahimallah, il dit, وَلِأَنَّ الْمَرْأَ ضَعِفَ. Il dit car la femme en elle-même, elle est faible. Et elle ne porte pas, et ça c'est pas d'une manière générale. C'est d'une manière générale. Certes, machallah, t'as des femmes, il ne faut pas quand la femme elle entend ça, tu sois visé pour dire non, moi je... C'est d'une manière générale. L'interdiction elle a été faite d'une manière générale. Machallah, t'as des sœurs, elles lavent les morts, elles lavent leurs enfants, elles lavent leur mari, elles lavent leur mère. Subhanallah, tu vois, elles ont, mashallah, cette... Donc, il dit, et généralement, la femme, d'une manière générale, elle est faible. Et d'une manière générale, elle va plus facilement tomber dans les lamentations, dans le fait de pleurer, dans le fait de, comme certaines, se s'arracher les habits, etc. Et en plus de ça, et là, le cheikh, rahimallah, il ramène une faïda importante. Il dit, en plus de ça, même on va dire si la femme elle se considère pas faible, etc. D'une manière générale, les cimetières, ils sont vides. Un cimetière, c'est pas un endroit où tu es en sécurité. C'est un endroit qui est vide. Donc ici, l'interdiction, elle a été faite aussi. De crainte. Que la femme, elle sort et que yani, les gens mauvais vont la suivre et risquent de lui causer du mal par peur de la fitna. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte dans l'interdiction. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celle qui visite les tombes. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celle qui visite les tombes. Et ici, Zairat, celle qui visite tout le temps. D'accord ? Mais si la femme, elle passe sur son chemin, et que sur son chemin, il y a un cimetière, et qu'elle s'arrête et qu'elle fait du'a, ici, il n'y a pas de mal. À la femme de faire cela. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas sortie avec l'intention de visiter le cimetière. Mais si elle est passée par cela... Elle est passée par cet endroit, elle s'est arrêtée et le cimetière il est là. Au contraire, elle fait du'a. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle s'arrête et qu'elle s'arrête au niveau de la tombe, qu'elle fait du'a comme l'homme le fait. Il dit, c'est pour ça qu'ici on fait la différence entre al-qasd wa adam al-qasd, entre celui qui a l'intention et celui qui n'a pas l'intention. Également, il est important de rappeler dans ce sujet. D'accord ? Il est important de rappeler dans ce sujet que les gens des tombes, peu importe le bien et les bonnes actions qu'ils ont fait, la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Ils ne peuvent pour eux ni du bien ni repousser un mal. Ni pour eux, que dire pour toi ? Si pour eux ils ne peuvent pas, s'ils sont châtiés, ils ne peuvent pas repousser le châtiment. Si pour eux ils ne peuvent pas repousser un mal ou se faire venir un bien. Comment ils vont pouvoir te faire un bien ou te faire un mal à toi-même? Donc ici, il est important d'enseigner aux gens que les morts ne peuvent rien faire. Et c'est pour cela que c'est nous qui allons et on invoque Allah en leur faveur. Donc si tu invoques Allah pour eux, pourquoi tu vas demander des dua? Pourquoi tu vas leur demander à eux des dua? Yud'a lahum wa la yud'auhum. On invoque pour eux, mais on ne les invoque pas eux. D'accord ? Et Allah Azza wa Jalla dit: "Waman adalla mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." ويقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Écoutez ces versets magnifiques dans sourate Al-Ahqaf, dans sourate Al-Fatil. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ces versets clairs, wadih, qu'il est interdit d'invoquer autre qu'Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Et qui est, dans le sens du verset, et qui est donc plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, man la yastajibu lah. Celui qui ne saurait lui répondre, qui ne saurait... Comment, quelle est la personne la plus égarée? Celui qui invoque en dehors d'Allah, quelqu'un qui ne peut même pas te répondre. إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et leurs divinités sont indifférentes à leurs invocations. C'est-à-dire que eux, ceux que tu adores, ceux que tu invoques en dehors d'Allah, ne savent même pas que tu les invoques. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ. Et quand les gens seront rassemblés, elles seront leurs ennemis et elles nieront leur adoration. Et subhanallah, regardez comment Allah Azza wa Jalla il a appelé l'invocation autre qu'Allah, l'adoration autre qu'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, il dit, c'est le verset 5 et 6 de la sourate 46, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'invocation c'est l'adoration. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité quel verset? Non, c'est pas dans le Baqara. Le verset c'est. Allah Azza wa Jalla dit: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et ton Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Certes, ceux qui s'emplent d'orgueil quant à mon adoration. Sadkhuluna jahannama dakhirin. Entre vous, et regarde, subhanallah, le prophète me dit: ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et ensuite, il cite ce verset. Ensuite, il cite: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et ton Seigneur a dit, et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui s'emplent d'orgueil quant à mon adoration. Regarde ici, subhanallah, comment Allah Azza wa Jalla l'a appelé l'invocation, l'adoration. Ensuite, il cite. Deuxième verset, donc dans Surah Al-Fatir. Et subhanallah, ce verset, c'est la base dans ce sujet. Tu apprends ce verset, tu réponds à tous ceux qu'ils invoquent, autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. Dans le sens du verset: tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, ma yamlikuna min qitmir. Subhanallah, il ne possède même pas el qitmir. Les savants ils disent c'est soit c'est la pellicule. T'as vu le quand tu manges la date là. T'as vu la pellicule d'un noyau de date. Il ne possède. Et subhanallah, les savants ils disent quoi? Ils disent: si tu invoques quelqu'un en dehors d'Allah, ben soit si tu l'invoques en dehors d'Allah, c'est parce que c'est yani, il possède quelque chose qu'Allah ne possède pas. Là, si tu l'invoques, il possède quelque chose qu'Allah ne possède pas. Là, même la pellicule d'un noyau de date, il ne la possède pas. Donc déjà, on vient couper l'arbre du shirk à sa racine. Ensuite, si tu l'invoques, parce qu'il sait peut-être parce qu'il t'entend. Dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla dit: In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Après tu vas dire: ah, peut-être qu'ils vont répondre.
Dans ce cas-là, si tu l'invoques, bah, c'est parce qu'il va te répondre. Tu vas invoquer quelqu'un qui va te répondre. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ?
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. Et s'ils entendraient, ils ne sauraient vous répondre. Et s'ils entendraient, ils ne sauraient vous répondre.
Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ.
Et au jour du jugement, ils vont nier votre shirk, votre association.
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.
Et personne ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Donc ici on voit l'importance de et la gravité d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ensuite les trois hadiths qui ont été cités, et on termine sur ça, les trois hadiths qui ont été cités, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Allah azza wa jal efface les péchés et élève en degré? Ils ont dit: na'am bala ya rasulallah. Et il a dit: par faire ses ablutions malgré el makareh, malgré les désagréments. C'est-à-dire que parmi les choses qui vont effacer tes péchés et qui vont t'élever en degré, il y a le fait qu'à certains moments, ça va être difficile pour toi de faire tes ablutions. Des fois parce que tu es malade, des fois parce qu'il fait froid, mais tu les fais quand même. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois absolument chercher la difficulté. Non. Au crayon de bois. Notre religion, elle est faite de facilité. Donc si tu as la possibilité de chauffer de l'eau, tu ne vas pas faire avec l'eau froide, non, parce que je vais l'ajar, non. Là, tu chauffes de l'eau. Là, on parle dans une situation, et là, on fait la différence entre yani, le makare, les difficultés, et el madar, les choses qui vont te causer du tort. Ça, c'est deux choses différentes. Il ne nous est pas demandé de nous causer du tort à nous-mêmes. Là, on parle simplement d'une difficulté. Des fois il fait froid, t'as pas d'eau, un exemple, tu vas le faire ici en faisant tes ablutions. Ou un exemple, des fois la salle d'ablution elle est à l'extérieur, pour passer tu dois marcher sous la pluie, c'est une difficulté, mais alhamdoulilah tu vas l'ajar. Ici c'est dans ce sens là bidoun et darar, mais ce n'est pas dans le sens de te causer un tort. Car si il y a une difficulté, s'il y a un mal, ça va te causer un mal, dans ce cas là tu fais pas les ablutions mais tu fais tayammum. Si dans le fait de faire tes ablutions avec l'eau froide, ça risque de te rendre malade, tu crains pour ta santé, ou ça risque de retarder ta maladie, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit, tu ne fais pas tes ablutions, tu fais tayammum. Par contre, si le fait de faire des ablutions avec l'eau froide, alhamdoulilah, tu ne crains pas pour ta santé, mais ça reste une difficulté, là tu as la récompense. Donc vous voyez la différence. Et celui qui fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala lui efface ses erreurs et il l'élève en degré. Mais celui qui peut chauffer l'eau, qu'il chauffe l'eau, car Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas pour nous la difficulté. Et celui qui s'impose des difficultés, lui n'obtient pas la récompense. D'accord ? Non, c'est le jahl. Ici, c'est le jahl. Il ne faut pas que la personne, elle s'impose une difficulté et elle tombe malade, etc. C'est ce que veut dire Allah Azza wa Jalla dit: ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Le verset 137 de Surat Nisa, verset 147, pardon, de Surat Nisa, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens: pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Et notamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme comme ça debout au soleil, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: mahada, que fait-il, Yanni? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit: j'ai voué, Yanni, j'ai fait une avart, j'ai fait le, Yanni, ils ont dit, cette personne, il a fait le vœu de rester au soleil. Qu'est-ce que le prophète sallam a fait? Il lui a pas dit il y aura la récompense, non, il lui a interdit. Il lui a interdit de faire ça et il lui a ordonné de se mettre à l'ombre. Il lui a ordonné de se mettre à l'ombre. Donc, la personne, elle n'est pas ordonnée et elle n'est pas même recommandée de faire des choses qui vont là, yani qui vont là, lui causer du tort. Qui vont dire, mais au plus, et ça c'est une règle importante, au plus où l'adoration tu peux te la rendre facile, rends-la toi facile. Au plus où l'adoration tu peux la rendre facile, rends-la toi facile. Mais là on parle de quoi? De quelqu'un qui c'est une difficulté alors que tu n'as pas choisi. Tu ne peux pas chauffer l'eau, ben tu fais avec l'eau froide, point. C'est ce que je veux dire ici, c'est pas, ça ne vient pas de ton ikhtiyar. Yani laysa min ikhtiyari. Li'annahu bighayri ikhtiyarihi. Car cela ne fait pas partie de sa propre volonté. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité l'importance de marcher, de multiplier les pas envers les mosquées. D'accord ? Et là, on voit bien la preuve que la prière à la mosquée, elle est obligatoire et elle est et que la prière de l'homme ne se fait pas à sa maison, mais elle se fait à la mosquée. Et l'importance de multiplier les pas à la mosquée, car si tu multiplies les pas en direction de la mosquée, Allah Azza wa Jalla efface tes péchés et t'élève en degré. Et il est même rapporté d'une manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que celui qui fait ses ablutions chez lui et qui fait ses ablutions de la meilleure manière et ensuite qui sort à la mosquée, la yakhrujuhu illa lis, et qu'il sort en ne voulant que la prière, il ne fera pas un pas sans qu'Allah Azza wa Jalla ne l'élève en degré et sans qu'Allah Azza wa Jalla ne lui efface un péché. Subhanallah al-Azim. Chaque pas, tu es élevé d'un degré et c'est un péché qui est effacé. Et lorsqu'il arrive dans la mosquée, les anges ne cessent de prier sur lui tant qu'il reste à son musalla, tant qu'il reste à son lieu de prière. Subhanallah al-Azim. Et les anges, qu'est-ce qu'ils disent? Allahumma salli alayhi. Oh Allah, prie sur lui, c'est-à-dire évoque-le en bien. Allahumma ghafirla. Oh Allah, pardonne-lui. Allahumma arham. Oh Allah, fais-lui miséricorde. La yazalu fi salah man tadhara salah. Car il est toujours en prière tant qu'il attend la prière. Tant que tu attends la prière, tu es toujours en prière. Et ici, le fait de multiplier les pas, même si la mosquée, elle est loin. Même si la mosquée, elle est loin. Ici, ça fait partie des grandes adorations de marcher vers les mosquées d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que si tu as le choix entre un chemin court et un chemin long, tu ne vas pas choisir le chemin long pour avoir la récompense. Là, non. Là, il y a plus de récompense dans le fait de prendre le chemin court. Pourquoi ? Parce que tu auras appliqué le hadith et tu auras choisi la facilité. Tu vois, subhanallah, ça aussi, c'est des règles importantes à savoir. Yani, la personne ne doit pas s'imposer quelconque difficulté. Ensuite, il a cité le hadith donc de Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-tahur shatr al-iman. La purification est considérée comme la moitié de la foi. Ici, les savants ont divergé, mais en fait, les deux avis sont bons. Est-ce qu'ici, la purification, on parle de la purification du cœur qui est le tawhid, le fait de se purifier contre le shirk, ou de la purification les deux sont bons, d'accord. La purification qui est faite avec l'eau ou avec le tayammum, etc. Donc ici, la purification qui est voulue, c'est la purification qui est faite avec l'eau, avec le tayammum, et c'est aussi la purification du cœur, que ce soit d'enlever tout shirk, d'enlever tout doute, d'enlever toute injustice, d'enlever toute jalousie envers les musulmans, toute haine envers les musulmans, etc. Donc toute purification ici est visée par ce hadith. Et ici le prophète sallam nous a cité que c'était la moitié de la religion. Dans ce cas-là, si ça c'est la moitié, c'est quoi l'autre moitié?
De la foi.
Naam, la moitié de la foi. Pas la religion, naam. Shatr min al-iman. Si la purification c'est la moitié de la foi, c'est quoi l'autre moitié? Ici c'est l'akhlaq al-fadila, c'est les bons comportements. Ici ce sont les bons comportements et les bonnes actions. Les bons comportements et les bonnes actions. D'accord ? Car la personne ne peut atteindre la purification, etc., sauf avec les bons comportements et le fait de se purifier contre les mauvais comportements. Et Inch'Allah, on aura l'occasion plus tard, bi'idhnillah, de
voir ce hadith dans son entièreté. Et il termine par, il termine ce chapitre sur les mérites des ablutions par le hadith de Omar ibn Khattab, où il dit celui qui fait ses ablutions et qui les fait parfaitement, et ensuite qu'il dit ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, les huit portes du paradis s'ouvriront directement pour lui et il entrera par n'importe quelle porte, par la porte qu'il souhaite. Et Tirmidhi rapporte qu'il rajoute Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Et après les ablutions, tu peux même dire subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce sont les trois invocations qui ont été rapportées après les ablutions, et on voit bien l'énorme récompense pour celui qui fait ses ablutions parfaitement et ensuite qui dit cette invocation, les huit portes du paradis lui sont ouvertes et il entre par celle qu'il veut. Subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Prochain cours inchallah, ce sera le dernier cours. Ensuite il y aura les vacances, on donne pas cours pendant les vacances, et on fera inchallah, on essaiera de faire entièrement le chapitre des ablutions, d'accord? Donc je ne sais pas à quelle heure il finira, mais on essaiera de faire entièrement le chapitre des ablutions. Barakallahu fikum.